Sunwo Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique, assure la pleine forme de tous nos champions et championnes d'Afrique. Suivez Priorité Santé. Sunwo Assurance, notre métier d'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Des traitements plus efficaces et des innovations spectaculaires. Une approche qui place le patient au centre des soins pour alléger le fardeau de la maladie. Un regard de la société qui évolue. Si l'on meurt moins aujourd'hui du cancer en France qu'il y a une trentaine d'années de cela, eh bien le nombre de nouveaux cas déclarés est en revanche en très forte hausse, avec une augmentation particulièrement alarmante chez les femmes. Plus 45% depuis 1990, d'après les derniers chiffres de Santé publique France et de l'Institut national du cancer. Plus de cas, alors que l'on sait que près de 40% des cancers sont directement associés au mode de vie ou à l'environnement. Autre constat face à cette maladie, c'est le fossé dans l'accès au traitement, les inégalités de prise en charge avec les pays en développement qui, d'après l'Organisation mondiale de la santé, rassemblent à eux seuls 70% des décès liés au cancer. En marge du dernier sommet de l'Union africaine, au début du mois au Niger, un message a été relayé. L'Afrique doit aussi dire stop au cancer. Appel à agir pour enrayer le développement de la maladie, agir sur la prévention, sur le diagnostic précoce, sur l'accès au traitement par radiothérapie ou chimiothérapie, inscrire la lutte contre le cancer parmi les priorités nationales de santé publique en Afrique, un combat qui nécessite l'engagement de tous. Prévention, dépistage, symptômes, accès aux différents traitements. En studio avec nous, docteur Tambo Batili, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes oncologue médical en recherche translationnelle et clinique dans le département de l'École des sciences du cancer à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, près de Paris. Vous êtes également, docteur Batili, membre de l'équipe d'Oncomali, ONG de lutte contre le cancer au Mali. Et il vient d'être désigné à la tête du conseil d'administration de la Ligue nationale contre le cancer. C'est le professeur Axel Kahn, généticien. Il sera tout à l'heure en ligne avec nous. Et puis nous allons retrouver en Côte d'Ivoire le professeur Judith Didikou-Koulibaly, directrice du nouveau centre d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara à Abidjan, présidente de l'association Aidons les personnes atteintes ou affectées par le cancer.
Priorité santé sur RFI.
Alors, ce sont plus de 2 cancers sur 5 qui seraient donc directement associés au mode de vie, associés à l'environnement. Docteur Tambo Batili, on dit que ces cancers sont évitables. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression « cancer évitable » ?
Alors, cancer évitable, ça veut dire qu'on a détecté un facteur qui déclenche ces cancers. Un exemple, le tabagisme. Ce que vous venez de dire aujourd'hui, les chiffres en France, 45% de plus, on a constaté quand on regarde, c'est lié au tabagisme. Les femmes jeunes fument encore plus.
C'est lié au comportement.
C'est lié au comportement. Depuis dans les années 70, on fume plus le tabac. On sait que l'alcool aussi augmente le cancer du sein des 15%. Donc on sait quand même que donc, ça, l'alcool, le tabac, donc ça c'est quelque chose qu'on peut éviter par le comportement.
On peut éviter par le comportement, mais toutefois, docteur Tambo Batili, il faut aller vers l'information, pas vers la culpabilisation.
On est d'accord. Dans cette information, aujourd'hui, donc, il y a des campagnes de la lutte contre le tabac, de l'alcool. Ce n'est pas évident. Donc c'est vrai que le côté lobby industriel, aujourd'hui on peut dire on supprime le tabac, c'est réglé, plus de vente de tabac.
Ça, c'est la révolution.
C'est la révolution, mais on se rend compte quand même qu'il y a pas mal de gens qui travaillent, que l'emploi, les finances des États qui sont liés à ça. Donc ça, il y a l'ambiguïté. Et soit on arrête le tabac et l'alcool, le problème est réglé, mais on se retrouve quand même qu'il y a des gens qui travaillent, des activités qui sont liées à ça. Donc il faut pondérer.
Et faire passer des messages de santé publique.
De santé publique.
Alors justement, pour réduire l'incidence de la maladie, vous avez parlé de ces leviers, le tabac, l'alcool, il y a aussi l'alimentation.
Il y a aussi l'alimentation. L'alimentation, notamment tout ce qui est... aujourd'hui, l'alimentation, c'est plus compliqué. Faire la part des choses, dire que cet aliment est responsable du cancer, on n'a pas identifié, mais on a des facteurs favorisants en disant qu'il y a certains aliments, parce qu'ils sont liés à des cultures par des pesticides, par des œstrogènes ou par des phyto, donc qui sont responsables des hormones, de la croissance des hormones qui accélèrent la survenue des cancers, que ce soit la prostate, le cancer du sang. Donc ça c'est démontré qu'il y a des facteurs favorisants de l'environnement de l'homme qui est lié à ça.
Alors, docteur Tambobatili, il y a ce qui est bon pour le corps et ce qui est mauvais pour le cancer. Et là, c'est le quatrième levier, c'est la pratique de l'activité physique.
La pratique de l'activité physique, donc ça c'est très important. Une activité physique de 45 minutes, trois fois par semaine, ça permet de remobiliser les cellules dans le corps pour la prolifération de cellules normales, pour qu'il n'y ait pas de mutation anormal, responsable du cancer. Donc ça maintient le corps dans la prévention. Donc le sport, diminuer l'alcool, le tabac.
Et c'est aussi quelque chose qui est conseillé une fois qu'on a lutté contre ce cancer, une fois qu'on s'est soigné. On va dire, c'est pas directement dans l'ordonnance, mais il y a de la part des oncologues, docteur Tambobatili, ce conseil de pratiquer de l'activité physique pour continuer à aller mieux.
C'est une prescription aujourd'hui systématique. On dit aux gens, bougez au maximum. La sédentarité, ça n'arrange rien.
Alors, prévenir le cancer, c'est aussi agir tôt dans l'évolution de la maladie. Ça veut dire travailler beaucoup sur le dépistage. Mais ce dépistage, docteur Batili, il dépend des différents types de cancers. Forcément, les symptômes ne sont pas les mêmes.
Les symptômes ne sont pas les mêmes. Dépister un cancer hormonal, prostate, cancer du sang, n'est pas la même chose que détecter un cancer de l'estomac ou détecter un cancer du côlon. Donc aujourd'hui, dans le dépistage, on sait qu'on arrive à faire mieux avec le cancer du sang, on arrive à faire un peu mieux avec le cancer du côlon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cancers où on a du mal à faire le dépistage. Le mélanome aussi, avec la peau, on arrive.
Cancer du col de l'utérus également.
Cancer du col de l'utérus également. Même si le sentier, le cancer de l'utérus, le cancer du col utérin, c'est beaucoup dans les pays en voie de développement. Et le dépistage, les modalités, c'est assez compliqué. Mmh. Donc, il y a un pas, mais il y a un grand pas qui reste à faire dans ce dépistage pour le rendre de façon généralisée sur tout le territoire, parce que les dépistages sont concentrés dans les grandes villes.
Avec un problème d'accès.
Avec un problème d'accès.
On va insister sur cette question de l'accès tout au cours de cette émission. Un dernier point, docteur Tambobatili, avant de passer à autre chose, sur les signes d'appel du cancer. Vous avez dit en fonction des différents types de cancer, bien sûr, ce n'est pas la même chose, les signes pour un cancer du côlon qu'un cancer du sein, on l'imagine. Mais s'il y a comme ça des repères, si les auditeurs nous écoutent, ils disent « là, peut-être que je dois, sans m'inquiéter, aller poser une question à mon médecin ».
Trois signes qu'il faudra impérativement voir un médecin pour éliminer un cancer. Vous avez une boule dans le corps, n'importe quelle partie du corps, et cette boule, elle évolue. Et donc là, il faut immédiatement consulter pour éliminer, que ça ne soit pas quelque chose de malin. Vous avez un saignement. Le saignement, tout saignement n'est pas cancer, mais beaucoup de cancers, que ce soit le cancer du col utérin, le cancer du rectum, le cancer de l'estomac. Et donc, ces cancers se traduisent par des saignements. Donc, il faudra éliminer quand on a un saignement. Et ces saignements deviennent des façons répétitives. Et ces saignements chroniques, il faudra consulter pour éliminer un cancer. Et il y a troisième chose, qu'on perd du poids, la perte de poids. Quand vous perdez du poids, quelqu'un qui perd 10 kilos en 6 mois, quelqu'un qui perd 15 kilos en 6 mois, c'est pas normal.
Il faut de toute façon s'interroger pour sa santé en général, même si c'est pas pour le cancer. Docteur Tambobatili, on va vous retrouver dans quelques instants. Tout de suite, on va retrouver en ligne le nouveau président du conseil d'administration de la Ligue nationale contre le cancer.
RFI.
Professeur Axel Kahn, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes généticien, vous avez présidé le groupe de réflexion éthique de la Ligue contre le cancer. Et il y a moins d'un mois, vous en avez donc pris la présidence. Alors si vous le voulez bien, professeur, d'abord expliquez à nos auditeurs, qui sont parfois très loin de la France, la nature des activités et l'importance de cette institution qui a plus de 100 ans.
En effet, elle a été créée juste au lendemain de la guerre de 14-18 par Justin Godart, qui, avec beaucoup de préscience, parlait déjà à l'époque de fléau social. La Ligue contre le cancer, la Ligue nationale contre le cancer, est une fédération de 103 comités départementaux, qui travaillent en très bonne intelligence et en partenariat avec des instances internationales et notamment des instances africaines, elle est, on peut le dire, le véritable bateau amiral de la lutte contre le cancer en France, puisqu'elle est le plus grand financeur privé, c'est tout à fait évident, et même le plus grand financeur quand on regarde le financement vraiment spécifique de la recherche sur le cancer, de la recherche contre le cancer par conséquent, mais elle intervient également énormément dans l'enseignement de la santé, l'amélioration de la santé, dans les écoles et ailleurs, dans les messages de prévention, dans l'aide à la création de registres épidémiologiques afin de pouvoir mieux prévenir connaissant les déterminants qui facilitent le cancer. Elle aide les malades, elle est à leur écoute 24 heures sur 24, elle donne des aides financières, elle mène des combats contre les pénuries de médicaments, elle mène des combats contre les carences des médicaments et elle a été déterminante dans la promotion des droits des malades en France, puisque les États généraux des droits des malades est à l'origine d'une révolution dans le droit français de ce point de vue-là. Vous voyez, c'est une organisation extraordinairement importante dans le pays. Elle a plus de 600 000 membres et c'est par ailleurs, à part la Croix-Rouge française, l'organisation, l'association qui dépend uniquement de la générosité publique et qui en dépend à très haut niveau, plus de 100 millions d'euros tous les ans.
Professeur Axel Kahn, justement, on a compris l'énorme ambition et l'énorme potentiel de cette institution, droit des patients, prise en charge, recherche, mais dans un contexte de baisse de la générosité publique. Baisse des dons, c'est véritablement, professeur Axel Kahn, une réalité aujourd'hui.
C'est une réalité à laquelle la Ligue a échappé. Et une des raisons, j'imagine, pour lesquelles les administrateurs et auparavant les présidents des comités départementaux m'ont élu comme président de la fédération de la Ligue nationale contre le cancer, est que en France, je suis sans doute l'un des scientifiques les plus connus, les plus médiatisés.
Du grand public,
et
oui.
Du grand public. Et que par ailleurs, mon important investissement dans le champ de l'éthique inspire confiance. Alors que toujours il y a cette suspicion sur l'utilisation des dons qui sont tirés de la générosité publique. Et par conséquent, je me fais fort, en tout cas c'est mon objectif, d'augmenter l'implication des Françaises et des Français. Rendez-vous compte, c'est vrai en Afrique aussi, mais dans un pays comme la France et dans les autres pays riches, un enfant sur deux des enfants qui naissent aujourd'hui sera atteint dans sa vie d'un cancer. Un enfant sur deux. C'est vraiment un réel problème de société. On ne peut pas baisser les bras.
Donc nécessité, on l'a compris, pour que la générosité se poursuive, de transparence, de bonne gouvernance. Le plan cancer a été initié en France il y a plus de 20 ans. C'est souvent incité, professeur Axel Kahn, à titre d'exemple à suivre pour les autres grandes pathologies, parce qu'on peut dire qu'il a été efficace, ça a vraiment changé le quotidien d'un grand nombre de patients. Et aujourd'hui, avec toutes les avancées récentes dans les traitements, notamment avec l'immunothérapie, sur quelle voie, justement, il faut avancer pour continuer à faire progresser la lutte contre le cancer ?
Alors, la recherche doit persister et d'une manière ou d'une autre, il faut absolument que l'on règle un problème. Les immunothérapies, une des classes d'immunothérapie qui utilise des cellules modifiées par génie génétique de telle sorte qu'elles combattent efficacement, qu'elles agressent et tuent les cellules cancéreuses, ce que l'on appelle les cartes T-cells. Tout cela est impliqué dans un traitement dont le prix unitaire est de l'ordre en France de 1 million d'euros par malade. Il y a environ 500 à 800 malades, compte tenu des indications de ces traitements, qui pourraient être justifiables aujourd'hui d'un traitement de ce type, vous faites le calcul, mais si la recherche progresse, il y en aura demain des milliers. Peut-être une dizaine de milliers. Et alors, aucun système de protection sociale
ne pourra couvrir pareille dépense.
Ne pourra faire face à cette demande-là. Et donc, il y a une nécessité totale de se mettre autour de la table, d'améliorer les techniques, d'en diminuer le prix et de faire en sorte que le progrès le progrès scientifique soit un progrès pour l'homme, parce que les humains qui sont atteints de cancer pourront en bénéficier, quel que soit leur état de fortune.
Et là, c'est vraiment la jonction de l'éthique et de la science. Merci beaucoup, professeur Axel Kahn, d'avoir répondu à nos questions. Très bonne journée à vous. Cette question de l'accès aux soins, ça vaut pour le prix des traitements qui sont très chers, hein, ces traitements novateurs, docteur Tambo Batili. Mais c'est aussi une question clé dans la prise en charge dans les pays du Sud. Et là, non seulement pour les traitements les plus, on va dire, les plus simples, les plus habituels, chimiothérapie, radiothérapie, également pour le diagnostic. C'est tout le processus de prise en charge du cancer qui doit être amélioré pour ouvrir son accès au plus grand nombre.
Aujourd'hui, je pense, dans la prise en charge du cancer, on parle de traitement multimodal. Aujourd'hui, on pense plus à la chimiothérapie, on pense plus à la radiothérapie, on pense plus à l'immunothérapie, c'est un traitement multimodal. Le même patient va avoir un traitement de chimio, suivi d'un traitement d'immunothérapie et de radiothérapie.
Sur des combinaisons.
Sur des combinaisons. Et ces combinaisons thérapeutiques, ça coûte extrêmement cher, comme vient de dire le professeur Kahn. Ça coûte cher, 2 millions et des milliers de gens qui sont atteints de cancer en France ou dont le coût coûte à la sécurité sociale 14 milliards d'euros. Et donc, c'est assez conséquent. Et donc, ça, c'est lié indépendamment que la recherche, elle est faite par des secteurs privés et qui fixent le prix comme ils veulent aussi. Donc, du coup, et le rôle de l'État dans la recherche,
c'est d'avoir une forme de régulation.
C'est une forme de régulation.
Donc, tout de suite, on va prendre en ligne les auditrices et les auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Première auditrice qui est en ligne de Guinée, de Conakry, c'est Awa. Bonjour Awa.
Bonjour docteur Cassé.
C'est Caroline à l'appareil, le docteur Tambo Batili est à votre écoute, allez-y.
D'accord. En fait, j'ai une sorte de boule que j'ai constatée du côté droit de mon sein. J'ai eu à faire mon examen à l'hôpital CHU de Donga. Après, ils m'ont demandé de faire la mammographie bilatérale. J'ai été faire aussi la mammographie bilatérale et ensuite, on m'a demandé que ça doit être opéré. Maintenant, j'aimerais savoir si cette boule-là signifie que c'est un début de cancer et sinon, qu'est-ce que ça peut bien être? Et la deuxième question, est-ce vrai qu'il y a des femmes qui ont une sorte de boule dans leur sein qui ne disparaissent qu'après l'allaitement?
Est-ce qu'aujourd'hui, vous allaitez, Awa? Vous venez d'avoir un bébé?
Non, je n'ai pas encore d'enfant.
Alors, première chose, je me tourne vers le docteur Tambo Batili. Les boules dans les seins lors de l'allaitement, ça n'a rien à voir avec ce dont parle Awa, vu qu'elle n'est pas enceinte et vu qu'elle n'allaite pas.
Tout à fait. Bonjour, Awa.
Bonjour, docteur.
Vous avez quel âge?
J'ai 26 ans.
Pardon?
26 ans.
26 ans. Alors, pour répondre à vos questions, est-ce que vous avez une histoire familiale dans le cancer, dans votre famille, côté de votre maman ou de votre papa, d'histoire de cancer, du cancer des seins?
Non.
Non. D'accord, vous avez 26 ans, pas d'histoire familiale de cancer. Donc, pour répondre à votre question, toute boule dans un sein n'est pas un cancer. Mais il faudra éliminer le cancer. Comme je vous dis, dans l'évolution, cette boule, elle est là. Il faut voir l'histoire. Depuis combien de temps vous avez cette boule? Est-ce qu'elle grossisse? Est-ce qu'elle est toujours de la même taille? Ou est-ce que vous venez juste de le sentir? Si vous venez juste de le sentir, il faut suivre la boule si elle évolue pas. Mais dans un contexte où vous avez 26 ans, faut pas prendre beaucoup de risques. Il faudra l'explorer. La mammographie, elle est faite. Vous allez regarder la mammographie. On met des critères. On va mettre les critères 1, 2, 3, 4. Si c'est 4, ça veut dire qu'il faut quand même faire un prélèvement. Si c'est 2, ça veut dire que c'est quelque chose, la mammographie a des critères de diagnostic de cancer. Donc pour faire simple, là votre médecin, vous voyez votre médecin, alors avant d'enlever la boule dans le sein, il y a une technique simple que le médecin, ils savent le faire, c'est de mettre une aiguille dans cette boule pour aller aspirer le contenu de la boule, envoyé au laboratoire spécialisé du cancer, ils vont dire c'est pas malin ou c'est malin.
Donc, est-ce que le médecin vous a proposé cette biopsie?
Oui, le médecin m'a dit qu'après l'opération, de prendre cette boule et de l'envoyer dans un autre hôpital faire des analyses, savoir il s'agit de quoi exactement et si ça n'a pas d'inconvénient à la langue.
Mais avant la chirurgie, vous a pas proposé de faire une biopsie ?
Un prélèvement.
Non, il ne vous a pas proposé.
Alors ça, c'est la problématique d'accès aux soins des biopsies. Dans certains pays, malheureusement,
où
c'est compliqué de faire une biopsie, ça se fait sous échographie, où des matériels de techniques de biopsie n'existent pas. Et malheureusement, on va directement à l'ablation de la boule, on l'envoie au laboratoire. La conséquence, c'est que peut-être qu'on enlève une boule pour rien, elle n'est pas cancéreuse, on vous a opéré pour rien. Mais malheureusement, il n'y a pas le choix. Il ne faut pas prendre des risques. Il faut se renseigner. Si vous êtes en Guinée-Conakry, c'est ça ? Donc, s'il y a une technique avec quelqu'un qui peut faire un prélèvement sans opérer, donc c'est de faire d'abord un petit prélèvement, envoyer au laboratoire, on attend la réponse. Si le laboratoire dit c'est bénin, ce qu'on appelle un fibroadénome, ça existe, c'est des petites boules dans le sang qui sont bénins, que c'est pas cancéreux du tout, on les enlève pas, sauf s'ils grossissent. Donc on surveille, on vous opère pas. Si c'est quelque chose qui est lié, le laboratoire ne répond que c'est tumoral, c'est lié à un problème de cancer, là en ce moment il faut enlever la boule et avec probablement les ganglions qui sont dans les selles. Mais ça, c'est ce qui est recommandé.
Après donc toutes ces opérations. Voilà pour cette réponse, Awa. On vous souhaite une très bonne journée à Conakry. On part tout de suite au Cameroun, à Yaoundé, où l'on retrouve François. Bonjour François.
Bonjour, docteur Caroline.
Je ne suis pas docteur, je suis journaliste, mais le docteur, c'est lui, c'est le docteur Tambo Batili, à votre écoute. Et c'est lui qui répond à vos questions. Moi, je les pose, François. Et je vous dis, allez-y, racontez-nous votre histoire.
Ok, merci. J'ai ma grande fille qui a un problème de cancer de sein. Et comme elle m'a fait les examens, la cytofonction, échographie de ma mère, actuellement elle est sous biochimie. Et chimiothérapie plutôt, chimiothérapie.
Oui.
On a fait la première phase qui doit durer 21 jours. Maintenant, les douleurs qui persistent, on a pris les anti-inflammatoires, les antibiotiques jusqu'à présent. Et la douleur ne s'étend pas aussi. Mais on dit, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant pour qu'on puisse se finir avec les sciences de biochimie et de chimiothérapie.
Alors, une chimiothérapie sur la grande sœur de François qui avait donc un cancer au niveau du sein droit. Les douleurs dont parle François, docteur Tambo Batili, c'est lié au traitement ou c'est lié plutôt au cancer ? Est-ce qu'on peut le savoir ?
Alors, les douleurs... François, bonjour.
Bonjour, docteur.
Donc c'est un cancer du sein. Est-ce qu'on sait bien, quand on fait un cancer du sein, de savoir la première de choses, est-ce que c'est localisé ce cancer ou ce cancer il est parti ailleurs? On fait un certain nombre de bilans. Est-ce qu'on a fait un scanner? Est-ce qu'on a exploré les os pour savoir est-ce que le cancer reste localisé ou c'est parti ailleurs? Donc ça, c'est la première de choses à faire. Ensuite, si ça trouve que le cancer il est localisé, en général, on fait un traitement local, on fait la chirurgie, des chimios et la radiothérapie. Après, ça, s'il y a une douleur, ce que vous décrivez, la douleur, est-ce qu'elle a mal dans quel endroit exactement ?
Au niveau du sein droit, mais la douleur, c'est au niveau de l'épaule gauche jusqu'au niveau du bras gauche.
Jusqu'au niveau du bras gauche, d'accord. Est-ce que le sein a été opéré ?
Non, et le docteur nous a dit qu'on va d'abord faire au moins 2 à 3 séances de la chimiothérapie avant de passer à l'opération.
Avant de passer à l'opération. Donc ça veut dire
Il faut d'abord neutraliser, et le sein qui est dur là, il faut essayer un peu de neutraliser avant de passer à l'opération.
D'accord. Donc ça veut dire que c'est un cancer, c'est un gros cancer qu'on peut pas opérer, qu'il faudra refroidir avec la chimiothérapie, ensuite discuter d'une opération. Donc ces douleurs, la chimiothérapie n'entraîne pas de douleurs. Au contraire, si cette chimiothérapie fonctionne bien, elle doit avoir moins mal. Donc vous venez de faire qu'une séance. Une séance, elle est pas suffisante pour contrôler. Donc il faut aller à peu près à 2. Mais après 2 séances, si les douleurs ne se calment pas, il faut se poser la question de l'efficacité de cette chimio. Consultez votre cancérologue. 2 séances, les choses s'empirent. Dans ce cas, on peut se poser la question de réévaluer pour discuter ce qu'on peut faire de la radiothérapie sur les zones douloureuses pour que la douleur, qu'elle ne souffre pas de douleur.
Et aujourd'hui, les antidouleurs qu'on donne à votre sœur, François, est-ce que vous savez de quoi il s'agit ?
Bien, si l'antidouleur, je pense qu'on sait à peu près, on a tous les tramadol. on a pris un truc de suite. Bon, c'est des produits, on a vu l'efficacité, mais ça n'agit même pas. Sinon, au départ, et les douleurs avant qu'on puisse aller à faire la biochimiothérapie.
Elle avait des douleurs déjà avant la chimiothérapie.
Oui. Avant la chimiothérapie. Oui.
Et, et d'un point de vue moral, comment se porte votre sœur? Comment elle supporte tous ces traitements?
Mais non, pour elle, les traitements, elle ne supporte pas. Elle dit que les produits qu'elle prend, ça n'agit même pas. Et elle fait cela pour pleurer. Et toute la nuit, dans la journée, nous sommes obligés de la caresser au repos de main pendant la nuit. Comme ça, elle se sent un peu à l'aise, elle dort quelques instants et se réveille encore.
Elle a une grosse déprime, votre sœur, c'est ça, François?
Justement, grosse déprime, on sait comment faire.
Il faudra essentiellement la soulager parce que c'est un cercle vicieux. Elle souffre tellement de douleurs que c'est la douleur qui entraîne tout ça. Donc, il faut vraiment voir son médecin cancérologue de donner des traitements un peu plus puissants qui sont des traitements morphiniques pour la soulager et réévaluer au bout de la deuxième séance de chimiothérapie s'il n'y a pas d'amélioration d'envisager une radiothérapie.
Voilà François, on vous souhaite une très bonne journée hein, à Yaoundé au Cameroun. Nous allons poursuivre nos échanges avec les auditeurs de Priorité Santé. Mais j'avais justement une remarque sur Facebook. Hein. C'est Michel qui habite en Côte d'Ivoire. Il nous explique « Ma mère est décédée à la suite d'un cancer du sein. J'ai constaté que son état de santé s'est détérioré quand elle a commencé la chimiothérapie. Est-ce que les médicaments pour traiter le cancer n'affaiblissent pas plus que la maladie qu'ils ne soignent ?» Je vous pose cette question parce que c'est souvent une information qui circule, notamment sur les réseaux sociaux, en disant finalement que le traitement est pire que le mal. J'imagine que vous allez apporter une réponse à cette affirmation.
Alors cette affirmation, c'est pour ça, il faut un spécialiste qui instaure une chimiothérapie. Il faut peser balance, bénéfices et risques. C'est des traitements costauds. Il faudra évaluer ce qu'on appelle l'état nutritionnel. Tout le monde n'est pas en état de recevoir une chimiothérapie. Il faut que la personne soit autonome pour faire ses activités quotidiennes. Il faut que la personne mange tous les jours, qu'il n'y a pas de dénutrition. Donc ces critères, une fois qu'on réunit ces critères, on dit, bon, la personne, elle est candidate à une chimiothérapie. Si on ne fait pas ça, qu'on ne fait pas une bonne évaluation, on va donner la chimiothérapie à une mauvaise personne qui n'est pas en état de le recevoir
et de le supporter.
Et c'est la catastrophe. Et donc, une personne qui est alitée toute la journée dans son lit, qui ne s'élève pas dans son lit, n'est pas une bonne candidate à la chimiothérapie. Donc, c'est une question d'indication du choix du médecin de faire le tri de qui est en état de recevoir la chimiothérapie ou pas. Sinon, la chimiothérapie, il y a des effets secondaires qu'on peut contrôler ces effets secondaires avec des traitements, ce qu'on appelle des antivomitifs, des traitements antidouleurs. Il y a pas mal ce qu'on appelle des soins de confort qui sont autour de la chimiothérapie qui permettent de passer sans effets secondaires majeurs. Mais si elle n'est pas donnée dans la bonne indication, dans la bonne personne, c'est vrai. Et que notre auditeur a raison de poser cette question.
Alors, on va partir pour la Côte d'Ivoire, pour Abidjan, où on retrouve Mavjan. Bonjour Mavjan.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
J'interviens parce que par rapport à mon témoignage, et d'abord par rapport à cette maladie. Mmh. Et d'abord, il y a une de mes cousines en France qui a été victime de cette maladie. Mmh. Et elle est décédée suite à cette maladie. Et l'alerte familiale est que présentement, nous avons un oncle qui, après les diagnostics, les docteurs ont dit qu'il a le cancer du foie. Mmh. Alors, et que le cancer a atteint les os. Mmh. Alors, je me suis posé la question avec toute cette innovation en médecine. Pourquoi les docteurs ont pris assez de temps? Parce que ce dernier a été plusieurs fois hospitalisé et les docteurs n'ont pas pu diagnostiquer cette maladie. Et c'est maintenant, après presque 2 mois de maladie, et là maintenant ils ont diagnostiqué pour savoir qu'il a le cancer de foie et que le cancer a atteint les os. Alors ça, ça a vraiment traumatisé la famille quand on pense déjà que avec, on a perdu une cousine de cette maladie. Mmh. Alors là, maintenant, moi, je me pose la question. Pourquoi ce diagnostic n'a pas, les docteurs n'ont pas dû diagnostiquer et qu'ils ont attendu après presque 2 mois de maladie pour annoncer cette nouvelle. Et là, présentement, là où je vous parle, c'est hier que ma mère m'a appelé pour me dire que l'enfant, présentement, est sorti de l'hôpital. Et ce matin même, avant l'émission, j'ai eu le contact avec ma mère à Paris, qui m'a certifié qu'il suit les traitements chimiothérapie à la maison. Et que c'est aujourd'hui même qu'il arrive à se tenir sur ses deux pieds et à manger tout seul. Parce qu'il n'arrivait pas à bouger, il était vraiment inerte.
Maf, j'ai une question à vous poser. Vous dites, on a attendu 2 mois avant de lui dire que ça s'était propagé aux os. Mais quand on a diagnostiqué le cancer du foie à votre oncle, il a été pris en charge, on s'est occupé de lui?
Le cancer, quand ils ont diagnostiqué, il est resté à l'hôpital 2 semaines. Et il est sorti que hier.
Donc il a subi des traitements quand on lui a diagnostiqué son cancer des foies.
Il a subi des traitements. Et là, présentement, il est sorti, il est à la maison. Mmh. Il suit la chimiothérapie.
Donc votre question, si je comprends bien, Mavjean, c'est pourquoi alors qu'il n'avait qu'un cancer du foie et qu'il a été pris en charge, pourquoi, en quelque sorte, ce cancer s'est-il propagé vers les os? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette évolution et qui s'est étendue? C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à le bloquer? C'est ça?
Oui. Et non seulement, pourquoi ils ont attendu pendant longtemps pour faire cette découverte? Parce que il était déjà maladif et hospitalisé à plusieurs reprises.
Docteur Tambo-Battili, il y a certains cancers qui sont évolutifs. D'abord, il y a un organe qui est touché, puis ensuite, d'autres organes vont être touchés. Tout ne se voit pas forcément au premier coup d'œil.
Non. Mavjean, bonjour.
Bonjour.
Votre oncle a quel âge?
Il est dans les cinquantaines.
Dans les cinquantaines. Donc, cette question que vous posez, c'est notre quotidien tous les jours. L'organisation du système de santé fait que, dès que vous avez des signes de maladie, vous consultez votre médecin, ce qu'on appelle le médecin généraliste. Il est généraliste, il n'est pas spécialiste. Et donc, il essaie de voir pourquoi vous avez des symptômes. Malheureusement, le symptôme des cancers du type digestif, que ce soit le foie, et en général, ça fait confusion avec beaucoup des maladies. Et donc, ce qui fait que, malheureusement, les gens nous arrivent chez les spécialistes avec un retard, effectivement, diagnostique de 1-2 mois, parce qu'on a pensé simplement que c'était une crise de foie, on a pensé que c'était une question de la bile ou d'autres maladies qui sont pas au cancer, qu'on élimine d'abord, donc rapidement. Donc, du coup, ça fait qu'il y a le retard diagnostique. Alors, le cancer du foie, l'évolution sur 2 mois que ça a été un loss, sûrement peut-être quand il est arrivé au départ, qu'on n'a pas fait tous les bilans. Donc au fur et à mesure qu'on fait le bilan, on est encore au même diagnostic. C'est un cancer qui était d'emblée parti du foie à l'os. Et donc la prise en charge, elle va être une chimiothérapie. Mais malheureusement, le foie, pour que les produits passent par le foie, et donc il faudra une association des chimiothérapies, pas une, deux, c'est à peu près 2 ou 3 produits pour essayer de décharger le foie, qui est l'organe vital. Et donc, les gens, donc, pour la première semaine, on est assez très fatigué, mais avant de reprendre le traitement, il a 10 jours pour récupérer.
Ce qui explique ce calendrier du traitement. Voilà, Mavjean, pour la réponse du docteur Tambo-Battili. Vous avez une autre question à poser?
Oui, mais ma seconde question est celle-ci. Mais je me demande, avec ces traitements, ces multiples traitements, arrivera-t-il vraiment à tenir cette guérison?
C'est une question difficile, hein, docteur Battili.
Ça dépendra de la réponse au traitement. Donc, au bout des 3-4 séances, on refait les bilans scanners et l'examen des os pour voir est-ce que votre oncle est sensible à cette chimiothérapie. Et la réponse, j'ai des patients qui vont faire une très bonne réponse. Il y en a qui répondent pas, il y en a qui répondent. Donc, elle est individuelle.
Mais cette question de Mavjean, elle est tout à fait pertinente, parce que c'est vrai que quand on apprend qu'on est concerné par le cancer, soit soi-même, soit son entourage, on a envie de savoir. Cette question aussi simple que basique, est-ce que je vais m'en sortir? On vous la pose, j'imagine, souvent, cette question.
La première des choses qu'on pose, c'est ça. Est-ce que j'ai espoir, docteur?
Et c'est difficile, question, comment vous faites pour y répondre?
La question, il y a une incertitude. L'incertitude, moi, ce que j'ai dit, l'incertitude fait qu'on garde espoir. Parce qu'on a des nouveaux traitements qui arrivent chaque année, on combine les traitements, les gens ne réagissent pas de la même manière. Il y a des gens qui ont dit le cancer s'est propagé, on fait le traitement, ça nettoie tout.
Donc ça dépend des individus.
Ça dépend des individus, ça dépend des organes, ça dépend, on ne peut pas dire que tout est vraiment noir.
Voilà, Mafjan, bonne journée pour vous à Abidjan. On va prendre Roger en ligne, un dernier auditeur en ligne, à Bamako, au Mali. Bonjour Roger.
Bonjour.
Le docteur Batili vous écoute, allez-y.
Ah oui, bonjour docteur.
Bonjour.
Voilà, en fait, j'ai ma femme qui est cancéreuse.
D'accord.
Donc, elle a eu un chirurgie, une chirurgie au niveau du système gauche.
Oui. Roger, c'est vraiment, il y a beaucoup de bruit autour de vous. Vous n'avez pas moyen de vous isoler un petit peu parce que là, je sais pas, il y a un coq, il y a du monde. On a du mal à faire la part des choses. Hein. On a du mal à entendre et c'est important ce que vous avez à nous dire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement votre cas?
Voilà, c'est ma femme qui est cancéreuse. Bon, elle a eu à avoir une chirurgie au niveau du sein gauche.
Oui.
Donc après, depuis ça, c'est fait en 2016. Mm-hmm. Donc en 2018, ça a déplacé sur l'autre sein aussi. Donc on a consulté notre médecin. Donc ils ont le cas a été révélé que l'autre sein aussi est atteint.
Oui.
Ah bon, depuis août 2018 jusqu'à nos jours, nous faisons la chimiothérapie. Donc, et puis, ce que je disais l'autre, parce que jusqu'à présent, elle sort de douleur, la chimio. Même hier, on a été pour la chimio. Donc maintenant, jusqu'à présent, elle sort de douleur au niveau du bas, comme au niveau...
Je suis navrée, Roger, c'est inaudible. Hein. Je vais essayer de résumer. On va essayer de résumer ce que vous avez dit. Votre femme est atteinte d'un cancer du sein depuis 2016. Elle a été opérée. Elle a subi une chimiothérapie. Mais a priori, le deuxième sein est atteint. Hein, c'est bien ce qu'on a compris. Ça veut dire que malgré l'opération et le traitement, docteur Tambo Batili, ce cancer du sein peut continuer à s'étendre. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui peut se dessiner derrière comme protocole?
Alors, ce qui se dessine dans son cas, c'est de savoir déjà si cette femme, le cancer bilatéral de deux seins, il faut éliminer un cancer génétique. Est-ce qu'elle n'a pas une forme, c'est ça que je pose à Roger, est-ce que dans la famille...
Hélas, la ligne est tellement mauvaise qu'on ne peut pas vraiment lui donner la parole.
Voilà. Donc là, cancer du sein bilatéral, il faut connaître l'âge de la femme, si elle est jeune, j'imagine, elle a un cancer de deux seins, donc il faut éliminer qu'elle n'a pas une forme génétique. En général, les formes génétiques de cancer du sein qui fait que ça atteint l'autre sein et souvent les ovaires. Et donc, c'est une forme agressive qui a un traitement un peu spécifique.
Alors, on est désolé parce qu'on ne peut pas relancer justement Roger pour avoir davantage de précision. On voit bien qu'il y a beaucoup de questions. Hein, apparemment, un certain nombre d'auditeurs qui ont un petit peu du mal à obtenir des renseignements directement quand ils se communiquent auprès de leur médecin, qui se posent des questions, c'est tout à fait naturel. Et puis, on va avoir un autre exemple tout de suite sur la prise en charge. Un autre exemple puisqu'on va partir pour la Côte d'Ivoire.
Priorité santé sur RFI.
On vous retrouve, professeur Judith Didikoukou-Koulibaly, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes directrice du Centre d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara à Abidjan. Professeur Koulibaly, comment expliquer la très forte progression des cas de cancer en Afrique subsaharienne?
Je vous remercie pour cette invitation et pour votre question. Bonjour au docteur Tambo également sur le plateau.
Bonjour.
En fait, nous avons constaté effectivement que les chiffres du cancer augmentent en Afrique subsaharienne. Il y a deux raisons essentielles à mon sens. La première, c'est celle dont le docteur Tambo parlait tout à l'heure. C'est le fait qu'en Afrique subsaharienne, on s'expose de plus en plus à de nouveaux facteurs de risque, notamment les facteurs de risque concernant les habitudes alimentaires et également la sédentarité. Vu les activités des uns et des autres, on ne pratique plus beaucoup d'activités sportives et les habitudes alimentaires ont changé, entre autres. Donc, des facteurs de risque plutôt environnementaux.
Professeur,
deuxième élément à prendre en compte, c'est le fait que le cancer se diagnostique de mieux en mieux en Afrique subsaharienne. Et les gens en parlent de plus en plus. Vous savez, dans certaines régions reculées, des personnes âgées qui avaient des ulcérations, ce qu'on appelle communément des plaies, pendant longtemps étaient taxées plutôt d'être des sorcières ou des choses comme ça, alors que ce sont des personnes qui avaient probablement des cancers. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. On parlait d'accessibilité, notamment en Côte d'Ivoire, l'accessibilité se fait. Le diagnostic du cancer et le traitement sont disponibles pour de plus en plus de personnes. Et donc, je pense que c'est la même chose dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Tous ces éléments réunis peuvent expliquer l'augmentation, en fait, du taux de cancer.
Alors, dans votre consultation à Abidjan, professeur Koulibaly, quels sont les cancers les plus fréquemment diagnostiqués ?
Les cancers les plus fréquemment diagnostiqués sont chez la femme le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Chez l'homme, le cancer de la prostate et le cancer du foie. Et chez les enfants, les lymphomes de Burkitt, c'est un cancer des ganglions assez particulier, et le néphroblastome, qui est un cancer du rein de l'enfant.
Et au niveau justement de la prise en charge, le moment de cette prise en charge, est-ce que à Abidjan en consultation, vous diriez que c'est plutôt des cancers à des stades avancés qui vous arrivent, professeur Koulibaly?
Oui, il faut dire que plus de la moitié des patients arrivent encore à des stades localement évolués ou métastatiques, c'est-à-dire le cancer généralisé. Mais force est de reconnaître qu'ici en Côte d'Ivoire, avec les efforts d'information, de sensibilisation et surtout de dédramatisation prônés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, beaucoup de cancers commencent à être découverts tôt. Je vous donnerai l'exemple du cancer du sein. On ne voyait pas beaucoup de cancers de petite taille, par exemple 1,5 cm, où l'ablation du sein n'est pas obligatoire, où la guérison est encore possible. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de cancers en une semaine de consultation, en deux semaines de consultation, beaucoup de personnes qui sont touchées par le cancer et qui viennent avec des tumeurs de plus en plus petites. Donc les chirurgiens font de plus en plus de traitements conservateurs en Côte d'Ivoire pour le sein, c'est-à-dire... Je voudrais parler pour permettre à tous nos auditeurs de comprendre. On fait moins d'ablation du sein. On conserve plus le sein, en fait, dans la chirurgie. Donc, pour me résumer, on commence à avoir des cancers, beaucoup plus de cancers découverts tôt. Le recul est encore insuffisant pour qu'il y ait un impact, mais nous savons que nous allons positivement vers le diagnostic précoce des cancers.
Donc un message important à faire passer, professeur Koulibaly, c'est que simplement la peur ne protège pas du cancer. Au contraire, quand on a un doute, il faut consulter, se faire dépister le plus tôt possible.
Oui, je confirme ce que vous dites et j'irai un peu plus loin en disant que par définition, lorsqu'on dit dépister, c'est qu'on ne ressent aucun signe. Lorsque quelqu'un ressent un signe et qu'il va rapidement à l'hôpital, c'est une très bonne chose, ça permet de diagnostiquer précocement, mais c'est encore mieux lorsque certains cancers ont des règles de dépistage, que les personnes s'approprient ces règles et puissent les respecter. Le dépistage, c'est aller à l'hôpital alors qu'on se sent en bonne santé, faire des examens pour voir s'il n'y a pas de cancer, notamment dans le sein et dans le col de l'utérus. Et je dirais qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, le ministère de la Santé, au travers du programme national de lutte contre le cancer, il y a 134 sites de dépistage du cancer du col de l'utérus qui ont été installés sur tout le territoire national, justement avec une technique simplifiée mais efficace validée par l'OMS pour les pays d'Afrique subsaharienne et l'inspection visuelle, et permettant justement à la population de ne pas être obligée de venir dans les grandes villes. Aujourd'hui, c'est décentralisé et ça a permis au cancer du col de l'utérus de devenir le deuxième cancer de la femme en Côte d'Ivoire parce qu'on a une réduction de l'incidence, alors qu'avant, il était le premier cancer du sein.
Alors, vous soulignez tout à l'heure, professeur Koulibaly, des traitements, des prises en charge disponibles. Mais moi, j'ai cette question. Disponible, oui, mais vraiment accessible?
Oui, en termes de dépistage, je dirais oui, accessible, parce que les sites de dépistage du cancer du col de l'utérus, les coûts sont accessibles et également les coûts dans les plateaux techniques de dépistage du cancer du sein.
Je parlais du traitement. 2000... Je parlais du traitement.
Ah, du traitement. D'accord. Mm-hmm. Nous étions au diagnostic, oui. Au dépistage. Mm-hmm. D'accord. Mm-hmm. Oui, pour le traitement, les coûts sont accessibles. C'est vrai que ça reste pour des populations d'Afrique subsaharienne, ça reste élevé pour un certain nombre de personnes. Mais il faut reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, il y a une volonté politique qui a été affirmée et des tarifs ont été étudiés. Je prends l'exemple des thérapies innovantes. Depuis 2017, il y a trois thérapies ciblées que Dr Tombeau connaît qui ont changé le pronostic positivement, le pronostic de plusieurs cancers qui coûtaient par séance entre 1 500 000 francs CFA et 2 250 000 francs CFA à raison d'une séance tous les 21 jours ou tous les 14 jours pendant au moins un an. Et depuis 2007, ces médicaments sont gratuits en Côte d'Ivoire.
Ça, c'est très important, justement, l'accès à la gratuité pour le plus grand nombre pour ce type de pathologie. Merci beaucoup, professeur Judith Didi Koukou-Koulibaly, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes également présidente de l'association Aidons les personnes atteintes ou affectées par le cancer. Merci d'être avec nous en ligne d'Abidjan.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Docteur Tombeau Batili, vous vouliez réagir justement à ce que l'on vient de dire avec le professeur Koulibaly sur peut-être cet accès aux soins?
Alors, sur l'accès aux soins, il y a des programmes politiques, qui est une belle initiative des pays, parce que sinon, si les politiques n'y se mêlent pas, on ne va pas y arriver. Donc, alors, le piège qu'il faut retenir aujourd'hui, il ne faut pas tomber sur une opération de communication des États. On se rend compte que dans la vraie vie, les patients qui viennent me voir, on dit la gratuité, elle est là. Mais souvent, c'est le produit, on dit c'est gratuit. Mais souvent, il y a une pénurie. Mmh. Le stock que les pays doivent commander par an, on sait qu'elle n'est pas proportionnelle au dépistage. Donc, les gens, ils viennent en masse. La quantité du produit que l'État dit, je fais une enveloppe de 200 millions pour les chimiothérapies, mais il n'y a pas
les moyens ne sont pas à la hauteur.
Les moyens ne sont pas à la hauteur. Donc il y a toujours des ruptures de produits. Donc les patients sont obligés d'aller acheter des produits. Donc c'est une réalité. Et souvent, le cas du Mali, on paye pour les adultes, mais bizarrement, il n'y a pas les enfants. Mmh. Tout ce qui est de gamins qui ont un cancer, il n'est pas pris en charge par l'État. Donc, c'est le groupe IGFAOP qui aide pour la pédiatrie cancéreuse.
Ce sont des financements extérieurs.
Des financements extérieurs. Donc, du coup, attention, les États, il faut quand même que les budgets, qu'on mette les budgets à jour, et pour qu'il n'y ait pas de rupture, et prendre en charge les accessoires. Souvent, on dit la chimio, elle est gratuite, mais pas les accessoires.
Comme le rappelait tout à l'heure le professeur Axel Kahn, c'est une question de société, c'est une question de santé publique. On vous remercie beaucoup, professeur Tombeau Batili, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes oncologue médical dans le département de l'École des sciences du cancer à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Vous êtes également membre de l'équipe d'Oncomali, ONG de lutte contre le cancer au Mali. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Ah, c'est tout, Samaké, Juliette Brault, Didier Bleu et aujourd'hui Laurence Snow. Lundi, nous allons parler du handicap au travail, de l'intégration des personnes handicapées dans le milieu professionnel. On attend vos appels au 33 84 22 75 75. On se retrouve lundi et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure la pleine forme de nos champions et championnes d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.